Bonjour et bienvenue au One Eye Club, le podcast BD qui sent bon les vacances d'été.
C'est vrai que là, ça sent bon les vacances d'été. Hein. On vient de faire un petit barbecue sympathique en terrasse. On a la piscine qui nous attend tout à l'heure, mais on a décidé qu'il fallait qu'on travaille avant. Quand même. Puis il fait trop chaud là. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Thio ?
Bah, sinon, après, c'est les coups de soleil assurés, donc ouais, non, pas encore.
Nous recevons Alexis Orsini. Alexis Orsini, c'est l'homme qui se cache derrière le site La Base Secrète, dédié à Naoki Urasawa. Naoki Urasawa, on vous en a déjà parlé, parce que on lit pas beaucoup de mangas, mais on lit les siens, en tout cas. On a beaucoup aimé donc les Monsters, les 20th Century Boys, les Pluto aussi, qu'on a tout chroniqué, je crois, déjà, en plus, déjà, dans notre émission.
Tout chroniqué, bien pour certains, mal pour d'autres. Je me rappelle un monster où on avait fait ça à l'arrache au tout début du podcast, où on avait des trous, mais innommables, on ne se rappelait même plus le nom des personnages. L'intrigue était tellement complexe, on ne se rappelait pas grand-chose, et on n'avait pas eu le temps de tout relire, donc ouais, c'était...
Et encore Monster sur 20th Century Boys, ça peut être plus compliqué. Plutôt, et maintenant Billy Bat, donc on vous fera la chronique de Billy Bat, parce que pour l'occasion, on l'a lu. Alexis Orsini, c'est aussi l'auteur de... L'ère du temps, Naoki Urasawa, l'ère du temps, une biographie et une monographie sur Naoki Urasawa qui est parue au Mouton électrique dans la collection
Bibliothèque des miroirs.
Voilà, là, Thio m'arrache le micro en milieu de phrase et il s'est trouvé bloqué.
Déjà, juste une première question, quelle est la différence entre une biographie et une monographie ?
Une biographie, donc, c'est le parcours de l'auteur classique. Et monographie, en fait, c'est quand en plus de la biographie, il y a une analyse de ses thèmes, de ses œuvres, ses obsessions, enfin, tout ce qui est récurrent dans son
œuvre, quoi. Voilà. Vraiment plus spécifique là-dessus,
ouais, juste une simple biographie.
Donc, tu as commencé à bosser sur le site qui s'appelait à l'époque 20th Century Boy.
Ouais.
Qui parlait donc exclusivement de 20th Century Boy. T'étais déjà à fond de manga avant, ou c'est celui-là qui t'a fait waouh le choc?
J'étais à fond dans les mangas, mais c'était plus des shonen, Naruto, Détective Conan et compagnie. Et ensuite j'ai découvert donc Urasawa. D'abord avec Monster, j'avais pas du tout accroché. Ensuite j'ai réessayé donc avec 20, et là j'ai eu le coup de foudre, et c'est là que j'ai lancé le site à peu près dans la foulée.
T'avais pas accroché à Monster?
Non. J'avais fini le premier tome et je sais pas, je trouvais que c'était long à se mettre en place. J'avais lu le résumé en fait et j'attendais que l'histoire se mette tout de suite en place et je trouvais ça long et je voyais pas trop où il voulait en venir.
C'est là qu'on va crever l'abcès de suite. T'avais quel âge quand t'as lu Monster ?
Je devais avoir 13, 14 ans.
Car tu es assez jeune, en tout cas nous, tu nous donnes un coup de vieux en tout cas. Surtout à Thio.
Pas tant que ça, je passais mon brevet. Tu étais à la maternité, quoi, c'est tout. C'est pas un souci, là.
Donc, tu as 22 ans.
C'est ça.
Et tu as publié un bouquin. Nous, on a beaucoup plus, on l'a pas fait. Donc, quelque part, ça impose le respect. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Le site a eu beaucoup de formes derrière. Au début, tu t'es lancé à l'arrache. Techniquement, ne serait-ce que pour ça. T'as fait quoi ? Techniquement, c'était quoi ton site au départ ?
Techniquement, je reprenais un kit graphique qui était proposé gratuitement. Je modifiais un peu et je mettais donc des résumés, des fiches de personnages. Avec toujours l'idée derrière de créer une communauté, donc un forum avec pas mal de fans pour discuter. Parce que c'était toujours en fait le but premier du site. Et ensuite, au fur et à mesure des années, donc, j'ai un peu amélioré. Enfin, j'ai changé l'aspect graphique. J'ai bidouillé par-ci par-là, et ensuite surtout le sujet du site, enfin, ça s'est élargi de 20th Century Boys à l'ensemble des œuvres d'Urasawa.
Mais il n'y avait pas de site déjà sur Urasawa ?
Il y en avait un, la bandakenji.free.fr, donc qui était aussi à la base spécialisé sur 20th, mais aussi après sur le reste. Et au départ, on se faisait concurrence, on va dire, et puis finalement, là, il est plus mis à jour depuis des années, donc...
T'as pas bouffé les auteurs pour les faire venir
Non, non.
Parce que là, t'as commencé tout seul, mais maintenant vous êtes une équipe.
Ouais, on est 4.
Là, je vois sur le truc, nous avons donc toi, ouais. surnommé Druchi, Druxi, ouais. tu prononces
Je prononce Druki, mais normalement, oui, ça se prononce Druchi. Enfin,
Druchi. Druchi.
Oui.
Vous devinerez l'origine. Nous avons Wang Kanjun, Typhoon Swell et Fortis Gunner
voilà.
qui participent. C'est toujours toi qui gères tout le côté technique ou tu te
oui.
fais aider ?
Enfin, avec l'aide de mon frère, en fait.
D'accord. T'as ton frangin qui aide derrière.
Qui s'y connaît en informatique.
Ouais. Qui s'y connaît en informatique. Il faut toujours avoir un pote qui s'y connaît en informatique. Quand c'est son frère, ça aide. Hein ?
Toujours.
Toujours. C'est beaucoup de visites, ton site ?
Environ une centaine par jour.
Bon, c'est à peu près le double de ce qu'on fait nous, donc c'est honnête.
C'est la célébrité, en fait. Hein. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas.
Il suffit de parler d'un sujet intéressant, hein. ça aide. Hein. Bon. On va faire le podcast de Naoki Urasawa. Je ne sais pas combien de temps on va pouvoir tenir. Et donc, tu as découvert tous les vieux trucs de Urasawa, parce qu'il bon, il s'est fait connaître beaucoup en France avec Monster. Moi, je l'avais découvert il y a très longtemps, quand sa BD Pineapple Army était pré-publiée dans le magazine Kamea, magazine de Glénat. Je ne sais pas si tu as connu ça, toi, tu vois.
Non, je lisais pas les magazines. Non. Je lisais pas les magazines, donc en fait, pas du tout.
C'était un super magazine quand tu vivais dans le trou paumé du monde où tu n'avais pas accès à des librairies spécialisées. Et donc, tu as découvert ces vieilles BD qui, pour le coup, n'étaient pas des thrillers. Parce que là, c'est ouais. vrai que globalement, quand on lit Monster, 20th Century Boy, même Pluto, qui pour le coup est vraiment du thriller, et là, on découvre donc Happy, Yawara, Master Keaton, Pineapple Army.
Encore que Master Keaton et Pineapple Army, enfin, c'est plutôt des thrillers dans le sens c'est des enquêtes policières avec des histoires de meurtres, de mafia, de corruption. Mais effectivement, oui, Yawara et Happy, c'est des shonen, enfin pas des shonen, mais des histoires sportives à la base avec une grosse dose de romance. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que donc il a repris ses grands codes des mangas typiques avec la romance pour en faire quelque chose de plus personnel. Notamment aussi, il y a tout un côté assez parodique de ce genre de manga dans sa propre histoire. Et voilà, donc c'est très différent de ce qu'il fait aujourd'hui. Et on commence à en avoir un bon aperçu, donc justement avec Happy chez Panini depuis quelques années.
Tu penses que quelque chose comme Yawara on pourrait arriver en France ou va arriver en France ?
Je pense que oui, ça devrait arriver puisqu'il est sorti il y a quelques années en Espagne. Et là, parallèlement, justement, les Espagnols ont eu Master Keaton cette année ou l'année dernière.
Panini en Espagne ou...
Je crois, c'est Planeta Agostini.
C'est Panini.
Ouais.
Je crois que Planeta Agostini, c'est Panini. J'ai un doute, hein, mais je crois bien. Parce que oui, Panini.
Oui,
c'est,
mais vu qu'ils ont eu Happy, de toute façon, je pense ouais. que c'est dans la continuité.
Justement, au niveau de ça, je sais qu'apparemment, avec ce qui se passe actuellement, c'est chez Kana. Est-ce qu'au niveau du fait de la globalisation des éditeurs japonais qui commencent à avoir de plus en plus d'influence dans les politiques de publication française, est-ce que d'un coup on va pas tout avoir Urasawa chez un seul éditeur ? Mais il a changé lui en plus, je crois, il y a pas longtemps.
Oui, il est passé, bah, pour Billy Bat, il est passé de Shogakukan à Kodansha, qui est le gros rival japonais. Donc je sais pas, c'est assez compliqué, je pense. Bah, on aura Master Keaton chez Kana, donc ce qui leur fera quand même Monster, Master Keaton, Pluto et les histoires courtes. Et sinon, je pense que ce sera entre Kana et Panini.
Est-ce que tu as une idée ? Est-ce que tu sais ce qui t'a bluffé chez Urasawa au départ ? Pourquoi est-ce que tu t'es d'un coup dit « Il faut que je fasse un site sur cet auteur, sur sa série 20th Century Boy au départ ?» Puis ensuite, au point d'en faire un bouquin derrière quand même. Donc, est-ce qu'il y a un truc en particulier qui t'a vraiment fait « Waouh !» C'est vrai que bon, quand tu passes de Naruto à Urasawa,
oui.
Je dis pas que Naruto, c'est de la merde, hein, je les ai jamais lus, donc je peux pas dire. Mais c'est quand même pas le même genre.
Oui.
Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, t'as fait « Faut que j'en parle
?» C'est ça, en fait, chercher justement quelque chose de plus mature, de plus adulte, pour changer. Et bon, après, pour le site en lui-même, ça a plus à voir avec moi qu'avec Urasawa, puisqu'à l'époque, dès que je découvrais une série, je me sentais obligé de faire un site dessus. Pour l'abandonner au bout d'une semaine ou d'un mois. Mais donc là, ça a perduré parce que justement, c'est un des seuls auteurs. Donc quand je relis ces histoires, ça me lasse jamais. Et on découvre en plus à chaque nouvelle relecture de nouveaux trucs. Et puis il y a tout le contexte réaliste, historique, qui rejoint donc l'histoire de l'Europe, du Japon. Puis bien sûr, les personnages aussi qui sont attachants et qui ont une vraie évolution du début à la fin, quoi.
Moi, je sais qu'il y a un truc qui m'a marqué chez Urasawa, c'est son côté européen, en fait.
Ouais, voilà.
Dans sa façon de raconter, tu sais, il y a un côté vraiment... Il y a une patte européenne dans son trait, même ne serait-ce que graphique, le fait que c'est un des rares mangas que je connaisse où on fait vraiment la différence entre les Européens et les Asiatiques, sachant bon, ça se passe souvent en Europe en plus, donc ça, ouais. ça aide. Il y a un côté réaliste. Il arrive à faire du gros nez, entre guillemets. C'est-à-dire, les personnages, il y a des personnages avec des gros nez, etc. Sans que ça reste caricatural, sans que ce soit caricatural, il a réussi à trouver une sorte de juste milieu entre les deux, qui doit lui permettre, je pense, d'aller assez vite pour publier, etc. T'as senti aussi cette patte européenne? Tu penses pas que c'est peut-être un truc qui t'a marqué?
Oui, effectivement, parce que ça se rapprochait un peu plus des bandes dessinées occidentales. Mais c'est surtout, en fait, dans l'histoire elle-même, que ça changeait vraiment de ce que je lisais à l'époque. Il y a ce côté universel où les intrigues se déroulent dans différents pays. Il y a des personnages de différentes nationalités. Il y a un côté très prenant là-dedans.
Tu t'attendais au succès du site? À ce que d'un coup, tu aies autant de monde? J'imagine que tu as plein de gens, d'autres fans qui t'ont contacté, qui ont... est-ce qu'il y a eu des conséquences inattendues à ce que tu fasses ce site?
Inattendues, non. Quand on se lance là-dedans, on ne sait jamais vraiment si ça va marcher. Mais l'intérêt, en fait, c'est que la progression chronologique du site et de l'apparition des œuvres d'Urasawa en France a concordé. Puisque justement, si j'ai élargi, c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus de séries de l'auteur qui sont sorties en France. Et donc oui, progressivement, par exemple avec la sortie de Pluto, il y a eu beaucoup plus de visites. Le site s'est fait plus connaître. Bon, après, par contre, sur le forum, comme je disais, le but premier, c'est d'attirer des fans pour discuter... pour débattre des séries. Ça, il y a toujours. C'est la partie la plus difficile, on va dire, puisque les gens en général viennent sur le site sans forcément réagir. Mais ce qui ne nous empêche pas de connaître. Et donc de venir régulièrement.
Justement, sur Pluto, tu as fait un truc qui a dû t'amener beaucoup de visites. C'est les comparaisons entre.
Wang Tianjun qui
l'a fait. Ah, c'est Wang Tianjun qui l'a fait. Bah, ce truc-là, moi, je sais que c'est assez... génial. Ouais. C'est colossal. En gros, c'est 2 mètres. Une image du dessin original de Tezuka et l'image du personnage revu par Urasawa. Et en plus,
un comparatif
en texte, le rôle du personnage dans l'histoire et comment Urasawa l'a modifié derrière. Sachant que, concernant Pluto, alors pour les lecteurs, rappelle-nous un peu ce qu'on raconte Pluto. Le projet Pluto, ça va peut-être...
Donc Pluto, à la base, c'est une réécriture d'une histoire d'Astro Boy. Des années 60 qui s'intitulait Astro Boy, le robot le plus fort du monde, donc de Tezuka. C'était un récit assez enfantin, donc qui mettait en scène Astro contre un robot mystérieux du nom de Pluto qui éliminait les 7 robots les plus puissants du monde. Donc c'était sur une environ 150 pages avec une succession de combats. Et donc en 2003, Urasawa, qui a toujours été un grand fan de Tezuka, voulait reprendre cette histoire parce que c'est elle qui l'avait marqué quand il était petit. Donc il a dû négocier avec l'héritier de Tezuka, il a fini par obtenir son aval et pour réécrire cette histoire dans son propre style, c'est-à-dire en faisant un thriller à la Monster, très adulte, très réaliste, et en reprenant donc les personnages, l'intrigue et les grandes lignes donc de l'original.
Ok, donc c'est vrai moi je trouve qu'il y a un travail sur Pluto, c'est pas mal, déjà sa série la plus courte.
Oui.
Ce qui en soi la rend plus abordable que les autres, parce que c'est vrai que quand on voit que Monster avec ses 18 tomes, ça peut 9 maintenant avec l'édition de luxe, déjà 9, ça fait moins réfléchir.
Quand tu vois le temps qu'il faut pour lire un tome de Monster, ça fait quand même.
C'est des volumes doubles, donc.
T'as quand même de la lecture, quoi, c'est pas rapide.
Ouais, non, c'est vrai que Urasawa, c'est pas du combat avec le nom du coup spécial qu'il fait dans la page. T'as juste ça comme texte, le nom du coup spécial. Je critique un petit peu, je troll un peu, mais. donc, tu bosses depuis quelques années sur le site, t'as commencé à monter une petite équipe, et d'un coup, tu fais un livre. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire d'un coup un livre sur Urasawa?
Le fait d'avoir beaucoup de temps libre à la base. Non, en fait, j'avais environ 6 mois de libre devant moi, et donc j'ai un ami journaliste du nom de Sébastien Kimbert qui m'avait donné l'idée. En fait, il m'a dit, et si t'écrivais un livre sur Urasawa? Donc au départ, ça me paraissait impossible parce que on connaît pas grand chose sur l'auteur, d'après les sources françaises, ne serait-ce que sur sa vie ou sa carrière. à part les résumés de quatrième de couverture. Et après, j'ai commencé à faire des recherches et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait de la matière. Et après, de fil en aiguille, donc en trouvant des interviews d'Urasawa qui menaient à d'autres interviews, d'autres documents, des numéros spéciaux, ce genre de trucs, il y avait vraiment une grosse matière là-dessus. Et ensuite, pour tout ce qui est partie analytique, en fait, comme je travaillais sur le site depuis des années, j'avais déjà des idées en tête que je voulais mettre sur le site, mais là, j'ai pu approfondir comme justement c'était un livre. Et puis le fait de passer du site à la version papier, en quelque sorte, ça donnait plus de valeur, on va dire, au travail effectué, quoi.
Donc ça, c'est l'idée de départ pour commencer, on va dire, à écrire le livre. Mais ensuite, l'édition en elle-même, c'est... T'es venu avec ton petit projet sous le bras et t'es...
Oui, voilà, en fait, j'ai commencé à écrire le manuscrit et j'ai vraiment avancé parce que mon idée, c'était d'avancer dans le manuscrit sans me préoccuper de savoir si j'allais trouver un éditeur pour pas que ça empiète sur la rédaction. Et une fois que j'ai bien avancé, environ au bout de 3 mois à peu près, je crois, j'avais une bonne base, donc de quoi envoyer des extraits aux éditeurs. Donc là, j'ai commencé à démarcher. Donc au départ, j'ai eu pas mal de réponses négatives. Ensuite, je suis tombé en cherchant un peu sur les moutons électriques. Donc en voyant qu'ils étaient spécialisés justement dans des monographies sur des auteurs de comics ou de bandes dessinées, j'ai vu que c'était tout à fait... Enfin, c'était l'éditeur idéal, quoi.
Et au niveau du livre, parce que moi, ce qui m'a, enfin, là, pour l'instant, je ne l'ai pas lu en entier, hein, j'ai à peine commencé il y a quelques jours. Au niveau de tout ce qui est illustration, tu as fait comment pour pouvoir faire les reproductions dans le livre?
J'ai pioché dans mes tomes français et japonais. On les a scannés, on les a reproduits.
Voilà, il n'y a pas de problème de droit ou de...
On n'a pas demandé les droits aux éditeurs japonais, mais d'après le droit européen, on est tout à fait dans la légalité, puisqu'on peut reproduire jusqu'à 20% d'un ouvrage.
Ouais, tant que tu es dans la citation,
voilà, c'est ça.
Et c'est dans pour illustrer l'illustration le propos. Tant que tu n'utilises pas pour faire dire autre chose, c'est pour dire, regardez, je parle de ça, donc j'ai le droit de le montrer.
C'est pour ça que, par exemple, sur la couverture, on avait un graphiste qui a repris donc des personnages d'Urasawa, mais redessiné à sa sauce, pour éviter justement des problèmes de droit.
D'ailleurs, cette couverture, moi je la trouve super. On voit que, je ne sais pas si tu as guidé le graphiste, mais il a bien compris les codes des couvertures d'Urasawa.
En fait, je lui ai donné les idées, oui, et ensuite il a mis en scène.
Alexis Orsini présente, Naoki Urasawa présente, la police de caractère de Naoki Urasawa, qui est celle où elle est très proche, 20th Century Boy. Et puis un côté graphique très particulier. C'est la collection, hein, je crois, qui a ce côté graphique-là. T'en es content, toi, de cette adaptation?
Oui,
ou
vraiment,
est-ce que t'as été bien surpris?
Surpris agréablement, c'est exactement ce que je voulais, quoi.
D'accord.
Surtout à l'intérieur, avec les rabats, il y a aussi d'autres personnages. Avec la peluche de Pluto au début et à la fin, la chauve-souris de Billy Bat.
Ouais, c'est les détails auxquels on n'a pas fait attention. Ouais. mais c'est bien. S'il y a des détails qu'il faut regarder... Ouais, la chauve-souris, ouais, je l'avais remarqué, la chauve-souris de Billy Bat. On va y revenir sur Billy Bat, cette chauve-souris, justement, tout à l'heure. Justement, tu parlais des sources que tu as eu du mal à trouver. Tu t'es rendu compte qu'il y avait des choses. Par contre, il y avait beaucoup de choses en japonais, j'imagine. Ouais. Tu parles pas un mot de japonais?
Non.
Non, pas un mot. Si,
j'en ai fait au lycée, mais j'ai pas retenu grand-chose, malheureusement.
On peut faire du japonais au lycée?
Ouais, par correspondance en l'occurrence.
Ah, le monde a bien changé.
Enfin, on peut aussi avec des cours normaux.
Je crois que moi j'avais le choix entre espagnol et italien. Hein. Tu vois le truc. Non, il y avait 3 langues là au lycée.
Il y avait pas allemand?
Ouais, il y avait allemand. C'était... Mais comme du coup au collège, forcément, tu avais le choix entre espagnol et espagnol, tu arrives au lycée, tu fais espagnol.
Moi je pouvais faire corse aussi.
On ne parle pas des minorités ethniques.
Ah, désolé. Donc, comment tu as fait pour justement... parce que j'imagine que oui, au Japon, effectivement, il y avait sans doute des tonnes de textes, mais il a fallu que tu te les appropries à un moment ou à un autre.
En fait, justement, la chance, on va dire, c'est que Urasawa, c'est un auteur très bavard. Enfin, il donne pas forcément des interviews... Enfin, si, quand même assez souvent, mais c'est surtout quand il fait une interview, c'est des interviews fleuves très longues. Et il parle un peu de tout, de sa vie, de son œuvre, du rapport entre les deux, ou alors il faut l'établir soi-même. Et donc une fois que j'avais les textes, donc il fallait les traduire, donc j'ai recruté un traducteur qui a eu la gentillesse donc de me faire des tarifs préférentiels en tant qu'étudiant, parce que c'était quand même un investissement. Et donc à chaque fois, je faisais traduire les textes et on en tirait les infos.
Et donc les traductions, tu as déjà commencé à les faire avant même d'avoir eu l'éditeur, donc
Oui, voilà. J'avais investi déjà avant.
Ouais, en fait, t'es parti vraiment. Je me fais mon bouquin et puis bon, s'il est édité, il est édité. Sinon, pour le reste, ce sera pour mon plaisir, quoi.
C'est exactement ça.
Ok, faut que t'en vendes encore combien pour être dans tes frais?
Faut que j'écoule tout le stock.
Tout le stock?
Et donc encore une réédition.
Ok, c'est là qu'on voit que c'est la passion.
Oui, bah ça, oui.
Donc le bouquin est sorti, il y a eu pas mal de pubs, en tout cas j'en ai beaucoup entendu parler sur les différents sites sur internet, il a été plutôt bien accueilli.
Ouais.
Justement, est-ce que toi t'as des retours sur son accueil, en tout cas en termes de vente?
Donc j'ai vu, en termes de vente, oui, j'en ai discuté avec l'éditeur qui m'a dit que c'était plutôt des bons chiffres.
Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que on est dans du bouquin assez théorique, ça donne pas forcément envie. Enfin, dans le sens où on préfère peut-être s'acheter les bouquins dont ça parle plutôt que le bouquin qui en parle derrière.
Oui, après, il y a toute la question de savoir si effectivement les lecteurs d'Urasawa ont envie de lire une monographie au sujet de l'auteur. Après, il faut aussi qu'ils en aient connaissance, parce que parfois, c'est pas évident. Mais non, normalement, il y a eu pas mal de réapprovisionnement dans les librairies.
Par contre, tu l'as vraiment écrit comme un bouquin pour des gens qui connaissent déjà Urasawa, enfin en tout cas ses BD.
Ouais. Mais l'idée c'était d'inciter les gens qui le connaissent pas à s'y lancer. Mais c'est vrai que c'est quand même assez pointu. Mais je pense quand même que si on lit juste la partie biographique, ça peut donner envie de découvrir ses œuvres et ensuite de s'attaquer à la partie analytique.
Parce que c'est vrai que sur la partie analytique, quand tu commences à parler des motifs, de tous les figures qui fait revenir régulièrement, forcément tu te retrouves contraint pour soutenir ton propos, de te raconter un peu ce qui se passe dans les bouquins.
J'ai essayé d'éviter au maximum, mais effectivement c'est obligatoire.
C'est pas évident. Moi je sais qu'il y a des moments où ça m'a rappelé des bouts des BD, parce que c'est vrai que la fin de 20th Century Boy par exemple est un peu floue encore dans ma tête. Il faudrait que je le relise un de ces quatre. Ouais, il y a du volume. Mais c'est vrai que... À ce niveau-là, enfin, il y a du spoiler, mais c'est vrai qu'il vaut mieux connaître les séries. Oui. Est-ce que tu penses que malgré ce que tu peux révéler sur les intrigues, parce que tu révèles quand même certaines choses, on peut quand même prendre du plaisir à lire un Urasawa derrière? Est-ce que tu crois que t'as pas gâché tout le plaisir?
Bah non, je pense que j'ai quand même réussi à garder le secret essentiel, on va dire. Parce que par exemple, si je dis que dans telle série, on va savoir à la fin que l'identité de tel ou tel personnage, je dis pas quelle est son identité. Donc je garde le secret là-dessus. Mais c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y a à une de mes séances de dédicace, il y a quelqu'un donc, qui était venu se faire dédicacer un livre et qui disait qu'il n'avait pas lu les séries en entier, mais que ça ne le dérangeait pas du tout d'avoir des spoilers. Parce que ce qui l'intéressait, c'était plus le développement des personnages, la psychologie, et qu'à la limite, c'était pas dérangeant de savoir ce qui allait se passer. Enfin bon, ça, je pense que c'est quand même une minorité.
Ouais, mais en même temps, sur Urasawa, je crois que tu as quand même quelque chose qui est super intéressant, c'est que même si tu connais... entre guillemets, le dénouement, c'est comment est-ce qu'il monte l'intrigue. Parce que je trouve que là-dessus, moi, ça me l'a fait sur Monster, parce que donc, j'avais lu le manga, et ensuite donc, j'avais vu l'animé sur
Canal+.
C'est Canal+, ouais. Et c'est vrai que du coup, quand tu revois après, tu vois en fait, comment l'intrigue se monte, et tu te dis, ouais, non, c'est énorme, quoi. Et finalement, même en connaissant la fin, tu vois finalement plus de détails. C'est presque un peu comme le film Je suspecte, en fait. Même si tu connais la fin, après tu re-regardes le début pour voir justement tous les détails qui font que tu te dis à la fin, waouh, c'était super bien écrit ou super bien filmé.
Oui, c'est parfois meilleur à la relecture parce qu'en plus, quand on suit les tomes qui paraissent tous les deux mois, des fois on est un peu perdu dans l'intrigue, alors que si on lit d'une traite, c'est quand même beaucoup plus maîtrisé. Quoi.
Voilà, justement, il y a Keyang, donc qui est Keyang888 sur Twitter, qui me dit est-ce qu'un jour Urasawa va finir correctement un manga? Parce que Monster et 20th Century Boy, quoi. Hashtag troll. Il est dans le troll. C'est vrai qu'on a du mal avec les fins d'Urasawa. Alors je sais pas si c'est parce qu'on a pas envie que ça s'arrête. Est-ce que tu penses qu'il a vraiment construit son intrigue du début à la fin dès le départ? Ou est-ce que comme les scénaristes de Lost, il se dit tiens, on inventera au dernier épisode?
Bah, personnellement, en tout cas, j'avais beaucoup aimé la fin de Monster. Enfin, je comprends pas trop les. Enfin, si, je comprends les critiques, mais perso, ça m'a pas dérangé.
Oui, pareil, ça m'a pas trop déplu non plus.
Je trouvais qu'on avait la réponse aux questions principales. Bon, par contre, 20th, ça sent que c'est du truc à rallonge et que. Je sais pas s'il construit, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que, donc, il a une idée de base et il sait déjà où il veut aller à la fin. Comme on le voit dans 20th ou dans le premier tome, on voit Kana, une scène qu'on retrouve dans les derniers volumes. Mais justement, il y a un de ses responsables d'édition qui disait que Urasawa lui-même se perdait des fois dans son intrigue et qu'il fallait lui rappeler qu'il avait oublié de parler de tel ou tel truc ou qu'il était parti dans une direction inattendue. Donc, à mon avis, oui, effectivement, il se perd un peu. Mais en plus, la question lui a été posée à Japan Expo lors de sa conférence publique. Et il a répondu qu'il préférait, en fait, que comme il avait travaillé pendant des années sur Master Keaton et Pineapple Army, où c'était des histoires courtes, donc chaque chapitre, il y avait une fin en 24 pages, c'était des fins trop parfaites, et qu'il préférait laisser des fins ouvertes avec une part de mystère et qui laisse, enfin, qu'on peut interpréter comme on veut, quoi.
Justement, on parlait des responsables éditoriales. Il y a un personnage qui m'a semblé très important pour Naoki Urasawa. Alors, je relis le nom parce qu'à chaque fois, j'ai du mal. C'est Takeshi Nagasaki.
C'est ça.
Qui est donc son éditeur. Moi, quelque chose qui m'a... En fait, ce qui est intéressant dans ton bouquin, c'est que tu parles aussi comment ça fonctionne le monde de l'édition dans le manga. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Je pense qu'il faudrait que je lise Bakugan pour être vraiment au courant. Ça me permettrait d'avoir une idée. Donc, il travaille avec un...
What is Bakugan?
Bakugan, c'est un manga des auteurs de Death Note qui raconte l'histoire de jeunes qui veulent réussir dans le manga. Voilà. Et ça a l'air pas mal.
Il faut mettre les sous-titres.
Oui, non, c'est bien.
Et là, je t'ai coupé, t'as perdu le film.
Merci beaucoup. Donc, Takeshi Nagasaki, je disais, c'est travail d'éditeur. Tu parles pas mal de comment on fonctionne avec un éditeur, un peu comment fonctionne le studio aussi. On parlera peut-être un peu du studio, parce que c'est quelque chose que tu n'as pas pu traiter dans ton bouquin et qui me semble super intéressant, moi, sur le fonctionnement des Japonais. Donc, en gros, il a un éditeur qui, en gros, est aussi son co-scénariste. C'est-à-dire, quelle est la relation en fait, on est plus dans le rôle du producteur exécutif à l'américaine que dans l'éditeur à l'européenne.
Donc à la base, oui, l'éditeur, c'est surtout quand un mangaka débute, c'est un peu son coach, son manager. C'est dans le cas d'Urasawa, donc c'est Nagasaki au début qui lui disait, parce que lui aussi débutait en tant qu'éditeur, et lui disait en gros d'écrire telle ou telle histoire. Donc c'est lui qui lui donnait le scénario. Donc Urasawa le mettait en forme, et au fur et à mesure donc de leur relation, ils ont évolué pour parvenir à une égalité au début, et ensuite Urasawa donc, qui est devenu le grand nom, et Nagasaki qui est resté dans l'ombre. Mais en gros, ils ont toujours fonctionné, pas sur toutes les séries, pas sur Happy ni sur Yawara, mais en duo. Et c'est que depuis quelques années que Nagasaki se fait créditer systématiquement sur ces séries nouvelles ou sur des rééditions comme Master Keaton.
Mais un point qui apparemment est quelque chose de super rare au Japon, c'est que quand Urasawa a changé d'éditeur, Nagasaki a changé de boulot aussi, en gros, pour le suivre. C'est quelque chose... Enfin, c'est déjà vu, ça a l'air assez hallucinant.
Non, justement, et c'est très rare qu'un mangaka garde le même éditeur, qu'on appelle donc Tanto en japonais. C'est très rare qu'il le garde pendant toute sa carrière. Normalement, c'est des relations qui durent un an, deux ans ou plus, mais jamais sur toute la durée d'un manga. Et encore moins d'une carrière.
Alors, au niveau de la production d'Urasawa, tu racontes qu'il a rarement eu une seule série en parallèle. Il était souvent à deux séries en parallèle, donc c'était du 18 planches. Il avait en gros minimum du 18 planches hebdomadaires. Il a eu plus, je sais pas.
Bah, c'est environ 20 pages par chapitre. Donc à une époque, il faisait une hebdomadaire, une bimensuelle.
Ouais, en gros, il doit...
Ça faisait, je sais plus, par mois, mais par an, ça fait environ 1300 planches.
Voilà, donc le dessinateur européen tourne à 48. Donc, bien sûr, il a des assistants.
C'est la couleur. C'est la couleur qui fait qu'il donne plus de temps en Europe.
On a des coloristes en Europe, en général. Mais bon, lui, il a des assistants. Déjà, est-ce que tu sais combien il a d'assistants? Quel est le rôle des assistants dans son travail? À quoi il sert? Est-ce que lui, il fait juste un storyboard assez détaillé et ensuite, eux vont faire un ancrage ou un truc comme ça? Est-ce qu'il s'occupe juste des décors? Enfin, quel est le rôle?
Donc, d'après ce qui a été dit là-dessus, il a 5 assistants qui sont tous, ou en tout cas principalement, chargés des décors. En fait, donc, il a aussi pour particularité dans ses croquis là, qu'on appelle Nemu, enfin, c'est comme des storyboards. Et donc, il a la particularité de les faire assez détaillés. Par exemple, au lieu de dessiner juste un rond pour un visage, il va mettre l'expression pour qu'ensuite lui-même donc, dessine au mieux le visage. Et donc pour les décors, il fait des décors, des croquis assez détaillés pour les donner à ses assistants, qui ensuite donc, réalisent le décor eux-mêmes. Et il repasse derrière pour s'assurer que ça correspond à ce qu'il souhaitait. Et donc dans sa semaine de travail, il a peut-être changé depuis, mais en tout cas quand il travaillait sur 20th Century Boys et plus tôt, il y avait un reportage japonais de la NHK, là, une chaîne publique, qui montrait bien, en fait, il arrivait donc, sur une semaine de 7 jours, il arrivait, il avait d'abord une réunion avec Nagasaki pour planifier le scénario. Ensuite, le lendemain, il arrivait dans son atelier. Donc là, il était tout seul et il faisait les storyboards. Et ensuite, quelques jours après, donc les assistants le rejoignaient pour se mettre à l'ensemble du chapitre et donc au décor.
Et le travail au niveau des décors, c'est un travail qui est fait, un travail de recherche au départ, ou c'est que des situations inventées chez Urasawa ?
Y a un gros travail de recherche, effectivement, parce qu'il a aussi dans son atelier toute une bibliothèque avec des ouvrages de documentation sur, par exemple, l'architecture ou la géographie en Allemagne, en Europe, pour ensuite reproduire au mieux.
D'ailleurs, je regardais là dans les Biggie Bat, le studio est crédité.
Ouais, Studio Nuts.
Studio Nuts, il était dans les précédents tomes ou
je l'ai juste remarqué là ? Il est dans les 20th Century Boys et je crois qu'il est dans les rééditions de Monster aussi.
C'est marrant parce que j'avais pas fait gaffe à ce genre de détail là avant de lire ton bouquin, ouais. Justement.
Non, mais il y avait tout un numéro d'ailleurs hors série d'un magazine japonais sur Urasawa où il y avait une visite en photo assez détaillée du studio. Donc on voit aussi qu'il avait par exemple un coin télé pour vérifier la documentation vidéo.
Ok, la suite de tout ça, toi tu continues à bosser sur le site La Base Secrète.
Oui.
Tu fais le tour du monde pour présenter ton œuvre aux journalistes du monde entier et faire un peu de promo et la vendre et exactement. Être riche un jour, oui. et rendre ton traducteur riche. Est-ce que tu comptes continuer un peu en dehors du site La Base Secrète, qui continue pas mal avec Billy Bat parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on va y revenir. Est-ce que tu penses t'intéresser à d'autres auteurs, à continuer peut-être dans le monde de la BD
Comme je m'oriente vers du journalisme, oui, forcément dans la BD et le manga notamment. Mais de là à en refaire un livre, je sais pas du tout, quoi.
Est-ce que du coup tu as pu rencontrer Urasawa à Japan Expo?
C'était une possibilité à Japan Expo, malheureusement ça s'est pas fait. Et je ne sais pas s'il a eu connaissance du livre, en fait.
Et ton éditeur, vu les ventes prolifiques, ne veut pas te payer pour l'instant un voyage au Japon
Non, mais en fait, on l'avait contacté en janvier donc pour lui demander de le rencontrer pour une interview. Et donc son assistant nous avait répondu qu'il avait refusé parce qu'il estimait que moi, en tant qu'auteur écrivant sur lui, il était mieux que je garde une certaine distance. Et il m'avait redirigé, par contre, vers une possible rencontre à Japan Expo. Et depuis, enfin, d'après ce qu'on m'a dit, c'était pas possible, mais je sais pas exactement ce qu'il en est.
C'était le gros invité de la Japan Expo. J'ai été surpris, moi, j'ai lu ton compte rendu donc de sa conférence. Il a fait une conférence dans laquelle il dessinait, il faisait de la musique, il a fait un concert le lendemain derrière. On s'attend pas du tout à ça d'un auteur asiatique. En plus, moi, tel que j'ai lu ton bouquin, je me suis dit que c'est un mec, il a la tête dans le guidon non-stop, il n'en sort pas. Là, il est venu à Japan Expo, il a pris combien de jours de retard sur son boulot?
Surtout que là, en plus, ils ont mis Billy Bat en pause pour quasiment tout l'été, je crois.
D'accord, c'est à cause de Japan Expo.
Et donc, mais bon, de toute façon, depuis qu'il travaille sur Billy Bat, en fait, il s'est arrangé pour avoir un calendrier moins chargé, puisque pendant des années, il a travaillé juste sur Billy Bat. Mais bon, là, apparemment, je sais pas si c'est lui ou son éditeur, mais il a commencé à accélérer puisque la série, qui était en bimensuel, est passée en hebdomadaire. Et en plus, il a commencé la suite de Master Keaton, qui paraît tous les 3 mois environ.
Il voulait faire comme le héros de Billy Bat, en fait, qui arrête la série aux États-Unis pour partir au Japon, revenir aux sources.
Oui, donc moi, ce qui m'avait surpris, c'est ce côté très ouvert, en fait. On ne s'attend pas à avoir ce genre de personnalité, surtout chez les Asiatiques, qui sont tendance à être très renfermés, à surtout pas vouloir se mettre en avant. Il a vraiment joué le jeu. Tu penses que c'est comme ça qu'il est? Je veux dire, avec ses cheveux en vrac, son look de hard rocker japonais. Est-ce que tu penses que c'est comme ça qu'il est, ou est-ce que tu penses qu'il s'est dit « je vais en Europe, il faut que je joue le jeu à l'européenne » ?
Non, je pense qu'il est vraiment comme ça. Après, il en a peut-être ajouté une couche pour le public, mais a priori, non, ça correspond à l'image qu'on en a, quoi.
J'aurais peut-être plus dit quand même pas à l'européenne, mais à l'américaine.
Oui, aussi.
C'est les acteurs américains qui la jouent totalement décontractés sur les plateaux, qui sont à fond dans la promo. C'est plutôt les Français, tu vois, qui sont un peu en train de un peu crisper, tu vois.
Ah ouais, mais attends, moi je savais pas que Bob Lennon, la chanson existait, quoi. Entendre la chanson de Bob Lennon, qui est la chanson qui finit 20th Century Boy, on se dit waouh, le gars il a écrit la chanson de son manga alors qu'il y avait peu de chances qu'on ait des occasions de l'entendre. Alors apparemment, il y a un CD qui a été publié...
Oui, à l'origine, avec le premier tome où on entendait la chanson. Enfin, où on lisait la chanson.
Excellent.
Dans les bacs.
Eh bien, on va pouvoir parler de Billy Bat, je pense, maintenant. Et puis après, on enchaînera sur l'avenir de Urasawa, ce que tu sais. Tu as peut-être des news, nous qui ne suivons pas toute l'actualité asiatique. Alors, mon cher Thio, tu as lu les deux premiers tomes, j'ai lu les trois premiers tomes. Voilà. Parce que je voulais tout avoir lu pour aujourd'hui et que j'ai pris le devant. Qu'as-tu pensé de Billy Bat ? Alors déjà, qu'est-ce que ça raconte que Billy Bat ? Je t'en prie, Thio.
Alors, donc comme son nom l'indique, il s'appelle Billy, c'est une chauve-souris. Et ensuite, donc, ses aventures, ça te va, ça ?
Ouais.
Bon, en fait, c'est pas réellement l'histoire de Billy Bat, je dirais. Enfin, après, on en parlera peut-être, hein, mais c'est plutôt l'histoire de Kenji, en fait, le dessinateur de Billy Bat, donc qui est un fils d'immigré japonais, qui dessine donc Billy Bat aux États-Unis, qui est une série à succès, parce que tout le monde a son Billy Bat, tout le monde est fan de Billy Bat. Et un jour, il découvre, en fait, que, enfin, un flic lui dit qu'il a déjà vu ce dessin-là, mais au Japon, quand il y était, en faction, parce qu'il il faisait partie de l'armée, il occupait le terrain, et je garde mon micro, c'est le mien. Et donc, du coup, il se dit, ah, oh, mais attends, si j'ai fait donc une, pardon?
Quelle année ça se passe?
Ça se passe après la Deuxième Guerre mondiale.
Ouais.
Et donc là, il se dit, ben, attends, si j'ai fait un plagiat, si j'ai copié sur quelqu'un, il faut que j'aille justement au Japon pour voir si c'est vrai, et puis bon, le cas échéant, demander l'autorisation, parce que bon, c'est pas bien, quoi. Et là, il va s'apercevoir qu'il y a différentes choses qui vont se produire, qui vont être très étranges.
Donc ça se passe en 49, on découvre un peu l'histoire, déjà, voir le Japon occupé, hein, c'est rare de voir le Japon de 49 représenté, en général, enfin moi je l'avais pas beaucoup vu, je sais pas si c'est plus souvent le cas dans les mangas, surtout d'un point de vue occidental, parce que Kevin Yamagata, il va vraiment avec un regard d'Américain sur le Japon. Et puis au bout d'un moment, on oublie Kevin Yamagata et on se retrouve sur la Lune, apparemment en 69, avec des extra-lunaires qui regardent, enfin les astronautes qui regardent et qui voient le symbole de la chauve-souris sur la Lune. Puis ensuite, on se retrouve à l'époque de Jésus et Judas qui parle à la chauve-souris aussi. Et puis d'un coup, on se retrouve en 59 avec un taxi qui parle à la chauve-souris et qui aide une jeune américaine à fuir un mariage avec un blanc, enfin au milieu de conflits sociaux. Et puis d'un coup, on se retrouve chez les ninjas, on va dire shinobi, parce que c'est le vrai mot, avec des rouleaux qui contiennent la chauve-souris. Mais donc là, on se retrouve... Je sais plus, quelle époque c'était déjà cela ?
C'était 16e siècle.
Ouais, 16e siècle. Voilà. Et là, on se dit, ok, Urasawa, c'est super intéressant ce que tu nous racontes, mais qu'est-ce que tu nous racontes ? Ça t'a pas un peu fait ça ?
Disons que moi, comme j'ai vu que les deux premiers tomes, si tu veux, à la fin du deuxième tome, je me suis dit, ouais, je crois que je commence à voir le truc, tu vois, parce que, bon, à force de lire du Urasawa, tu te dis, ouais. Bon, ça va pas être si simple que ça, il doit y avoir un truc caché, alors du coup, tu cherches, alors tu réfléchis, et je me suis dit, ouais, je commence à peut-être à voir le truc. Et là, vu ce que tu me dis sur le tome 3, je pense qu'en fait, j'étais à peu près totalement à côté.
Non, parce que ça tient la route. Apparemment, il y a l'origine du dessin de cette chauve-souris qui. Il y a le côté gentil et le côté méchant de la chauve-souris, mais le blanc et le noir, on sait pas trop où on en est. On essaie de savoir là-dessus. Ce qui surprend, c'est ses voyages dans le temps. Surtout qu'en plus, souvent, dans une planche, il nous fait la transition entre les deux époques. Il attend pas le début d'un chapitre, il nous fait vraiment la transition au milieu. Billy Bat est un personnage super intéressant d'un point de vue des influences. Il s'est beaucoup éclaté avec. C'est-à-dire qu'il y a du Mickey et il y a du Batman dedans. Il y a les deux. C'est une sorte de mélange entre Mickey et Batman, moi, que je trouve assez, assez surprenant, parce que le logo de la chauve-souris fait vraiment penser au logo de Batman. On sent qu'il a mis tout ce qu'il avait dedans, toutes les thématiques donc, qu'on avait dans le bouquin d'Alexis, on les retrouve. Tu verras dans le tome 3, justement, il y a toutes les thématiques de l'enfance, avec encore des flashbacks, tu vois. C'est-à-dire que même si tu suis les histoires des ninjas, tu as des flashbacks sur leur enfance. Ouais, donc voyage dans le temps non-stop, une sorte de puzzle complexe qui se met en place. Le seul truc qui est un peu choquant, c'est ce personnage de Billy Bat qui graphiquement apparaît au milieu. Et autant quand tu le vois dans l'époque en 49, graphiquement ça va, mais quand tu le vois au 16e siècle chez les ninjas, ça fait bizarre, graphiquement. Ensuite, j'avoue que c'est vrai que bah voilà, où il va, qu'est-ce qu'il va raconter, on sent que c'est très très ambitieux en tout cas de sa part.
Oui, bah c'est clairement le manga le plus ambitieux qu'il ait fait. Ce qui est d'ailleurs pas peu dire après 20th Century Boys, puisque ça mettait quand même la barre assez haut. Et oui, c'est difficile à dire. Je crois que d'ailleurs encore aujourd'hui, au Japon, ils en sont au 9e tome, et ils savent pas exactement où il va, quoi.
En plus, il a fait le piège jusqu'au bout, c'est-à-dire que le premier chapitre, donc, qui avait été prépublié, ne contenait que du Billy Bat, la BD dans la BD, avec aucune référence avec son style de dessin habituel, etc. Donc t'imagines, t'achètes le dernier Urasawa et tu as un truc sur du faux papier jauni avec un style animalier qui te raconte l'histoire d'une chauve-souris détective privée.
Oui, d'ailleurs, à l'époque, les gens croyaient que c'était une redécouverte d'un comics des années 40.
Ah, ils avaient cru que c'était vraiment une réédition. Oui, est-ce qu'il a vraiment adapté son style?
Oui, c'est ça qui est assez fascinant. C'est ce qu'il fait d'ailleurs dans quasiment toutes ses séries avec Monster et le livre de contes. 20th, c'est le cahier de prédiction.
Et aussi dans 20th, maintenant il y a en plus ce qui va sortir bientôt, ouais, le spin-off.
Alors, c'est le même.
Ouais, pour nos éditeurs, dans 20th Century Boy, vers la fin, on a des auteurs de manga qui veulent remettre le manga au goût du jour parce que ça a disparu. Et qui font des BD, et Urasawa les a dessinés dans un style différent, apparemment en s'amusant à faire de la parodie de tous les grands genres du manga.
C'est ça.
Ça avait l'air assez fun, et ça sort en août. Là.
En août, ouais, chez Panini.
Ça sort en août chez Panini. Donc je pense que moi je vais me jeter dessus, parce que je suis un peu fan là pour le coup.
L'avantage c'est que c'est souvent assez petit les trucs de manga, donc ça rentrera bien ta bibliothèque.
Au niveau graphique, qu'est-ce que t'en as pensé, Thio?
J'ai pensé que, enfin, moi, c'est, tu vois, contrairement à toi, ça m'a pas choqué, quoi. Pour moi, c'est un mélange des styles. T'as le passage bande dessinée qui est très très dessin animé, très cartoon, ouais, cartoon Mickey. Mickey, Donald, enfin le Tex Avery, quoi. Merci pour la private joke. Moi j'ai pas été plus, on va dire, perturbé par le graphique, quoi. Je suis resté vraiment sur, pour moi, quelque chose qui est dans la lignée de ce qu'il faisait avant. Donc peut-être que du coup j'ai pas prêté assez attention à ce qu'il faisait avant, mais pour moi ça reste à peu près équivalent. Donc
moi, je trouve que, alors déjà, je trouve qu'il y a quelque chose de très fort sur Billy Bat, c'est qu'il a pris beaucoup de codes. On voit qu'il y a un amour de la bande dessinée en soi. Par exemple, le fait que Billy Bat, quelle que soit l'orientation dans laquelle il se tourne, ses oreilles sont toujours du même écart, comme les oreilles de Mickey ou les oreilles d'Astro, qui est inspiré de Mickey. C'est-à-dire que quelle que soit l'angle dans lequel il se retourne, ses oreilles sont toujours avec le même écart. Ça fait toujours la même silhouette. Le logo qui fait énormément penser au logo de Batman. Même si, effectivement, faire un logo à partir d'une forme de chauve-souris, on peut difficilement faire autre chose. Je pense qu'on peut difficilement faire abstraction de Batman à l'heure actuelle, oui, quand on dessine ce genre de logo-là. Ça me semble quand même... Ça peut pas être une coïncidence, quoi. J'imagine trop le truc. Ah, j'ai fait un logo de chauve-souris, regarde, c'est trop bien. Mais on dirait le logo de Batman. De qui? C'est pas possible. Et je trouve aussi qu'il a un style graphique vachement plus lâché. Moins travaillé au niveau des visages, au niveau des traits. Je trouve qu'il a un style beaucoup plus brut. On a l'impression qu'il dessine plus vite, qu'il s'applique moins. C'est pas plus mal, hein. Je trouve que c'est un côté plus dynamique. Il y a un côté péchu. En gros, j'ai l'impression qu'il y a moins d'assistants derrière, en fait. C'est aussi l'effet que ça me donne.
Ça, je sais pas du tout, mais... Non, vas-y.
Ah non, pareil. Non, là j'avoue que non, je suis pas allé... pas aller jusque là, et non, là je trouve que c'est je sais pas.
Mais il y a aussi, je trouve, un côté dans la mise en scène très cinématographique, encore plus qu'avant, notamment le premier chapitre quand donc on découvre on est dans l'atelier de Kevin à Los Angeles, et qu'ensuite donc on parle du Japon, et juste après il y a une page entière sur le Japon de 1949, ou encore les transitions entre les époques, avec par exemple un moment les hélices de l'avion là, dans le tome 3, et la page suivante, les ailes d'un oiseau.
Qui font flop, 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 voilà. Flap, flap, flap. Ouais, il y a une transition sonore dans le manga. Ça
c'est quelque chose de nouveau.
Ça m'avait marqué aussi. Ouais, il y a ce côté-là. Et j'ai l'impression, mais là, je ne saurais pas dire, qu'il y a plus de cases par planche aussi.
Oui, c'est possible. En tout cas, je crois aussi qu'il y a plus de planches par chapitre.
Parce que là, je vois, par exemple, là, j'ai une page où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cases. Quoi. On est proche, ouais. on est proche du découpage comics, voire BD européenne au niveau du nombre de cases, qui est assez, c'est très très dense pour du manga. Je ne sais pas si Urasawa a connaissance des BD autres que des BD japonaises.
Si, c'est un grand connaisseur, oui, des BD européennes, des comics.
Qu'est-ce qu'on sait aussi
qu'il avait été assez influencé par Moebius.
Comme tout le monde.
Ouais, mais là particulièrement apparemment. Sinon, j'ai pas d'auteur en tête, mais c'est une influence certaine, quoi.
En tout cas, bah, moi, j'attends un peu la suite avec impatience, parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de très bonnes idées. Je pense qu'il va nous balader dans encore d'autres époques, et qu'il va beaucoup jouer là-dessus, et qu'à chaque fois, il va nous faire un portrait de ce qu'était l'illustration à cette époque-là. C'est ce côté-là, c'est-à-dire que quand il nous arrive sur le côté des shinobi, il nous parle des dessins, des manuscrits, même s'il en parle assez... Enfin, c'est quand même une poursuite, hein, tout ce passage-là, tu as 10 chapitres, c'est une poursuite pour un ninja qui tente de s'échapper face à ses anciens copains qui essayent de le choper parce qu'il veut mettre un manuscrit,
un rouleau
sur lequel il y a la chauve-souris dessinée à l'abri, alors que tous veulent qu'il le détruise parce qu'il est trop dangereux.
D'ailleurs, ça fait un peu penser au Seigneur des Anneaux, ce volume.
Oui.
Puisqu'il lui conseille de le détruire, tout le monde veut l'attraper, on dit que ça a une influence sur le porteur. Une
influence négative sur le porteur, et effectivement, ça en a une. C'est vrai que ça fait beaucoup penser au Seigneur des Anneaux.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de scènes d'action, ce qui est assez inhabituel chez Urasawa. Ouais. Enfin, il les dessine, je trouve, beaucoup mieux qu'avant. Et notamment, là, il y a un côté assez violent qu'on ne retrouve pas forcément.
Le coup de la hache, ouais, c'est.
Oui, et du mec décapité. Ouais.
C'est peut-être aussi, alors je ne connais pas les autres œuvres de Urasawa, mais peut-être aussi parce que c'est la première fois où il y a un personnage qui est. Où il y a des personnages qui sont vraiment des combattants. Quoi.
Oui,
dans,
voilà,
c'est dans
ça.
Monster
oui,
ou dans Antonia,
que, ouais. Il y a des meurtres, mais on voit pas ouais. La scène. Ou...
Oui, et puis en plus, les personnes qui sont on va dire, les héros, enfin, c'est monsieur tout le monde, donc forcément, oui. Il a peut-être pas non plus des grosses capacités. Quoi.
Et puis en plus, il peut se permettre, j'ai l'impression, de multiplier les genres. C'est vrai que tout le côté. Au début, avec Kevin Yamagata, on est dans le thriller, donc effectivement, il ne montre pas forcément la violence. Elle est suggérée, on l'imagine, etc. Mais ensuite, c'est vrai que quand on arrive sur tout le passage avec les ninjas, on est dans de l'action, on est dans de la poursuite. Donc montrer la violence est peut-être plus adapté à ce style-là. Le coup de la poursuite avec la mariée, on est dans la comédie romantique.
Ouais. Et puis dans son registre des histoires courtes en quelques chapitres.
Voilà. J'ai l'impression qu'il se fait vraiment plaisir à essayer de toucher à tout. Maintenant, est-ce qu'il sait où il va ?
Il faut voir si le tout est vraiment relié, parce que pour l'instant, le scénario peut toucher à toutes les époques sans qu'il y ait d'explication vraiment réelle. Quoi.
Est-ce qu'on va avoir un moment quelque chose qui va nous relier toutes les pièces du puzzle quoi ?
Mais bon, là, par contre, on est clairement dans le fantastique, alors que dans Twentieth, c'est pas clair forcément dès le début.
Du coup, on pourrait peut-être avoir un petit crossover avec Usagi, non ? Si ? Entre les Shinobi et Usagi Yojimbo.
Ouais, Bidibat et Usagi Yojimbo pourraient, vu qu'ils sont des personnages animaliers, être dedans. Surtout que les chauves-souris dans Usagi Yojimbo sont des ninjas. Et c'est des méchants, même.
Mais bon, en gros, la trame quand même principale, donc même s'ils sautent d'époque en époque, c'est de revisiter, comme il dit dans l'histoire, les zones d'ombre de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les complots, enfin les histoires de meurtres irrésolues.
C'est marrant parce que c'est une thématique qu'on trouve beaucoup dans la BD européenne avec les grandes sagas, comment ça s'appelle, tous les grosses sagas. L'histoire secrète, ouais, tout ça. Donc ça, je ne les ai pas lues, mais c'est vraiment des thématiques.
Mais d'ailleurs, le prochain tome, là, le quatrième, aborde une période sans spoiler qui est vraiment très intéressante d'un point de vue européen, ou plutôt américain, mais.
Ah, donc pas de surprise. Déjà, là, quand il aborde la période de François Xavier, missionnaire, dont on n'a jamais entendu parler en France, hein, rassure-toi, c'est un missionnaire qui allait au Japon, en fait. Donc le mec, hey, je vais évangéliser le Japon, houhou, je vais y arriver tout seul. Tu vois, c'est. Il y croyait.
Je le connais. Hein, tu le connais ? Non, je le connais, en fait.
On voit que tu bosses dans une école catho. Ok, bon ben, c'est très bien pour tout ça. Nous allons pouvoir maintenant passer à la seconde partie de notre émission. Alors, tu as fait donc une liste de bandes dessinées, d'après les questions que nous avons posées, et j'ai été surpris de l'absence de manga dans ta liste. On a un peu de comics. Voilà. Mais on a beaucoup de franco-belges très classiques. Et tu as commencé en nous disant Spirou, la BD avec laquelle tout a commencé.
Voilà.
C'est la première BD
que je lisais quand j'étais petit. Ouais, je crois que c'est la première que j'ai lue. Et je me souviens que j'avais acheté, enfin, je m'étais fait offrir progressivement l'intégrale petit à petit quand j'étais petit. Et oui, ça reste ma série culte. Quoi.
Attends, la question piège. Qu'est-ce que ça raconte, Spirou?
Les aventures de. Deux types qui voyagent à travers le monde, grosso modo.
Ouais, c'est pas mal. Non, c'est pas mal parce que c'est dur hein, de définir ce qu'on dit. Et qui sont journalistes, je crois, ils sont journalistes.
Ouais.
Ou chargés de com dans les derniers tomes. Ils sont chargés de com pour le magazine, d'où le costume. T'as une période préférée de Spirou ?
Tom et Jean-Ry.
Ouais.
D'ailleurs, c'est la seule que je relis vraiment régulièrement.
Ouais, qu'est-ce qui t'a marqué dans Tom et Jean-Ry ?
Bah déjà c'est ceux qui paraissaient quand j'ai commencé à les lire et je sais pas le style c'était vraiment raccord avec mon époque. J'aimais beaucoup l'humour aussi. Puis je trouvais vraiment que d'un album à un autre il variait les situations. Et notamment l'idée de le faire voyager enfin à Moscou, à New York, j'avais beaucoup aimé.
Ouais. Il y avait aussi des thématiques. Qu'est-ce que t'as pensé d'ailleurs de Machine qui rêve ?
Bah justement, j'avais beaucoup aimé.
On n'est pas beaucoup. T'avais aimé, toi,
de ce que j'ai cru comprendre, oui, ça a pas mal divisé.
Ouais, mais bon, c'était quand même. Enfin, ouais, mais enfin, je trouve que c'était une BD qui était super novatrice sur Spirou, quoi.
Ah oui, c'est.
Parce que du coup, tu te retrouvais avec quelque chose qui prenait vraiment le contre-pied de ce qu'on avait l'habitude de lire pour ce héros-là, quoi.
Ouais, mais ça aurait plus sa place dans la collection Une aventure de Spirou et Fantasio par. Est-ce que t'as lu cette collection-là ?
Ouais, moi, je suis pas très fan. Enfin, je trouve que c'est vraiment inégal. Bon, c'est le principe, remarque, d'un volume à l'autre.
Mais c'est vrai que je pense que Machine qui rêve aurait mieux eu sa place là-dedans.
Ah. J'avais lu les planches de celui qu'ils avaient voulu faire à Cuba. Là.
Ouais, qui avait l'air génial.
Oui, il avait l'air excellent.
Spirou à Cuba, ça avait l'air génial, je regrette.
Surtout que c'était un mélange du style, leur style précédent et le style de Machine qui rêve.
Ça avait l'air très très bien avec un Zorgloub bien classe. D'ailleurs, c'était Zorgloub à Cuba, je crois, le titre.
Ouais, c'est ça.
C'était pas Spirou à Cuba. Ok, le tome que tu redirais le plus souvent, celui qui te déçoit jamais quand tu le rouvres.
Luna Fatale ou Spirou à Moscou, je pense.
Luna Fatale, le Spirou qui commence à parler de sexe.
Ouais, c'est
le premier.
C'est sans doute pour ça.
Parce que ouais, c'est ce qu'ils avaient fait aussi Tom et Jean-Ry, c'est qu'ils ont brisé plein de tabous en parlant de sexe, de racisme, de choses dont on parlait pas en fait. On évitait de parler à l'époque. Oui. Tu nous as ensuite parlé de la BD avec laquelle ça a continué, et tu as parlé de 13. Alors là, justement, on arrive sur du plus mature, la grande BD d'aventure. Que nous raconte 13, selon toi, vas-y, avec tes mots.
L'histoire d'un amnésique au milieu d'un complot aux États-Unis.
T'es vachement fort en résumé, t'es beaucoup plus fort que nous, je trouve. Nous, on rame, on aurait commencé à dire « oui, mais... »
Le problème, c'est que nous, on donne trop de détails. Tu vois, il est très, très, très synthétique.
Donc ça, c'est un de mes problèmes aussi, normalement. À l'écrit, en tout cas.
Ouais, tu donnes trop de détails.
Ouais.
Ouais, c'est plus facile de couper que d'en rajouter, des fois.
Non, j'ai toujours tendance à vouloir en dire un maximum, et du coup...
D'accord. 13, ouais, donc, c'est l'histoire de cet amnésique. Tu as tout aimé, tu as lu jusqu'au bout, parce que la série... Il y a les spin-offs, maintenant, encore, que j'ai
ouais,
pas lu.
Je me suis arrêté. Oui, j'ai pas lu les spin-offs, ni la suite.
Ouais. Tu t'es arrêté à celui, c'est l'affaire irlandaise, je crois, le dernier. Celui
non,
dessiné par Mobius.
C'est Dernier Round.
Dernier Round. Dessiné par Mobius, je crois, le Dernier Round.
Non, c'est le truc irlandais qui est dessiné.
D'accord, je confonds. Tu vois, je l'ai suivi plus à l'envers. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de cette conclusion ? Moi, je ne l'ai pas lu. Hein,
Bah, qu'ils auraient dû s'arrêter bien avant.
D'accord. Ouais, moi aussi, je t'avoue que quand je suis arrivé à. Disons que. Moi, il sortait au fur et à mesure que je les lisais. Donc, quand j'ai vu que le numéro 13 allait sortir, je me suis dit, c'est le tome parfait pour s'arrêter, le tome 13 de 13.
Non, ils ont fait ouais.
Voilà, c'est là qu'ils avaient sorti un très très beau bouquin d'ailleurs qui revenait sur tout le complot. Donc 13 contre 1, moi c'est 13 de complot. Ouais, c'est 13 de complot qui était vachement bien foutu.
Ouais, c'était bien fait, mais
surtout pour t'y repérer dans les 40 000 identités. Oui, ce qu'il faut savoir que dans 13, Monsieur 13, en fait, tu crois qu'il s'appelle comme ça, mais en fait, non. Mais en fait, non plus, parce qu'en fait, il a eu un lavage de cerveau, puis on lui a fait de la chirurgie esthétique pour qu'il ait le visage d'un mec qui avait déjà changé 3 fois d'identité, puis lui-même a encore changé 3 fois d'identité. C'était un peu brouillon. Ok, t'as lu d'autres séries de ces auteurs-là, de Van Sevenham. Tu connais un peu Van Sevenham autrement?
Je dis une connerie si c'est eux qui avaient fait l'Argo Winch.
Non, c'est alors
un des deux.
C'est moi qui dis une connerie d'ailleurs. Non, c'est ça. C'est Vance qui fait 13. L'Argo Winch, je trouve plus le nom du dessinateur, mais c'est Vanham au scénario. Ouais.
Non, mais j'avais essayé, mais j'avais pas du tout accroché.
Il y a d'autres bouquins de Vance un peu plus anciens où graphiquement il est un peu plus péchu, un peu plus, ouais, plus sympa. C'est un peu comme sur Torgal quand tu tombes sur Complain de des Landes perdues et que tu vois les derniers Torgal qu'il a fait en couleur, pas en couleur directe. Tu te dis, il y a une différence de travail. Le mec il s'est dit, oh Torgal ça se vend, j'y vais. La BD qui n'a pas le succès mérité, et là tu touches mon petit cœur de fan. Jérôme K. Jérôme Blush.
Ouais.
Tu l'as vu, j'ai toute la collection bien en vue. Voir certains tomes en 2 exemplaires, parce qu'il y a des éditions, machin chose, etc. Donc, t'es fan de Jérôme Blush, t'es lecteur de Spirou. Quand je vois un peu ce que tu lis le magazine.
Oui, en fait, oui. Je sais plus comment j'ai découvert Jérôme K., mais c'est la même période à peu près. Mm-hmm. Par contre, j'ai pas lu les 5 derniers.
Ouais.
Je trouvais d'ailleurs que c'était moins bien, ou. Ça se renouvelait moins.
Ils sont en train d'essayer de faire évoluer le personnage petit à petit, ils prennent leur temps, en orchant en fait. C'est-à-dire que d'un coup, tu te rends compte, ah, en orchant, il a eu une discussion avec sa copine.
Ouais.
D'un coup, tu découvres, ah, il vit avec elle. Ça n'a jamais été dit, raconté le moment où il se met à vivre avec elle, etc. Mais là, ils vivent ensemble.
Non, je trouvais que les intrigues policières tournaient un peu en rond.
Ouais. Ils avaient trouvé quelques trucs sympas. Le cœur à gauche, par exemple.
Oui, non, ça c'était, oui.
C'était bien sympa. Mais
ouais, vraiment, les derniers, quoi. Enfin. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque de celui en 2 parties là avec la comtesse.
Ouais.
Donc c'était vraiment ma période où j'étais le plus accro et j'avais écrit à Daudier pour lui exposer. Enfin, je devais avoir 11 ans ou 12 ans pour lui exposer ma théorie et tout. Il m'avait répondu donc que j'aurais la réponse dans l'album suivant, mais il m'avait fait une dédicace très sympa qu'il m'avait renvoyée par courrier.
Ça c'est super cool, ouais. Ça. Bah Daudier, moi je l'avais rencontré il y a très longtemps à un festival de BD et justement j'avais trouvé le mec super,
oui, il avait
sympa.
L'air, un truc.
Et j'avais adoré le dossier dans Spirou, il expliquait comment il bossait aussi.
Je sais pas si j'avais vu ça. Non.
C'est un travail de redessin, de retravail. Il a un travail sur la mise en scène, sur la narration qui est très très précis.
Même sur
très,
les
très
décors fort. De Paris et tout, c'est vachement
pointu. Voilà, mais genre à un moment il te montre une planche qu'il avait fait avec des cases longues. Et puis d'un coup, enfin longue, horizontale,
ouais.
Et puis il te montre une autre version de la planche, mais avec des cases verticales, ouais. Parce qu'il cherchait celle qui marcherait le mieux, ou bien alors, parce qu'il avait fait de la BD humoristique avant aussi, il te montre une main qu'il a barrée, parce qu'elle trouve qu'elle fait trop dans son ancien style humoristique, donc il faut qu'il la redessine, du très bon boulot. Jérôme K. Jérôme Blush, on va pouvoir raconter ce que c'est l'histoire d'un détective privé, qui aimerait bien être un détective privé à la Bogart, mais qui n'est qu'un petit détective privé de quartier, qui va essayer de retrouver l'oiseau de la voisine qui s'est échappé, et que des petites affaires comme ça, qui vont souvent le mettre au milieu d'affaires criminelles un petit peu plus costauds. Mais c'est vraiment le détective du quotidien. Il n'a pas son permis de conduire, il est obligé d'utiliser un Solex. Voilà, je crois qu'il passe son permis dans les derniers.
Ah bon ?
Ouais.
Ça brise le mythe.
Ouais, mais. Il conduit une douche, hein. Ouais. Faut pas rêver non plus. Mais ouais, non, le personnage est en train de grandir très doucement, mais je trouve qu'il y a une progression dedans, ce qui est assez rare dans le franco-belge. On continue dans les trucs dont on a parlé de cœur de fan. Tout à l'heure, tu dis que Jérôme Blush n'a pas le succès mérité. T'as l'impression, ouais, que c'est une série qui est pas connue, qui marche pas.
Enfin, j'ai dit ça pour le caser quelque part dans le questionnaire. Mais oui, enfin, j'avais pas l'impression que c'était spécialement connu, mais je sais pas du tout à vrai dire.
Ouais, c'est bien, tu l'as bien casé.
Oui, parce que déjà c'est connu peut-être de lecteurs de bande dessinée, mais
oui, c'est pas
grand cool. Public. Jérôme Blush, je suis pas sûr que ce soit très vendeur quand même.
Enfin, pourtant, le fait que ça continue à paraître, c'est que ça doit quand même marcher assez bien, je pense.
Ouais, ouais, puis un paquet de. Ouais, puis on en est à un paquet de tomes, là, 22, je crois.
Ouais, plus de 20, ouais.
Ouais, ça, ça commence à faire une belle collection. Les trésors de Picsou. Ouais. Tu as mis une BD qui mériterait une réédition. Alors là, on va être dans, le, dans la finesse et la précision. Les trésors de Picsou, ce sont des hors-séries de Picsou Magazine, si je m'abuse, qui avaient publié La jeunesse de Picsou.
Que j'avais connu à l'époque.
Qui est un chef-d'œuvre.
Dans une autre colorisation, c'est ça?
Je ne sais plus. Moi, j'ai la première publication qui avait été faite de La jeunesse.
Ouais, c'est ça.
J'avais lu les premiers La jeunesse de Picsou dans Picsou Magazine à l'époque. Et ils avaient fait ce grand recueil qui était, je crois, c'était 10 francs à l'époque. Ça ne me rajeunit pas. Mais 10 francs, t'avais un méga gros tome bourré de BD, enfin un truc que jamais tu retrouves ça maintenant. Et tu trouves que ça mériterait une réédition, et ce coup de bol, c'est en train de se faire petit à petit.
Ah bon ? Mais dans les hors-séries ou dans
pas
le...
dans les hors-séries, en beau bouquin chez Glénat.
Ouais. Donc ils... ouais, mais là, ils sont à Karl Barks, non ?
Alors, ils sont à Karl Barks, ils vont faire Don Rosa.
Ouais.
Voilà, là, ils ont sera... prévu de faire Don Rosa et là j'ai hésitation parce que l'intégrale de Don Rosa
ouais parce que même hors de la jeunesse de Picsou c'est voilà. C'est du costaud quoi.
Même si j'ai entendu dire que les éditions proposées par Glénat ne valent pas les éditions américaines qui sont je crois que c'est Fantagraphics qui publie les intégrales en VO qui sont beaucoup mieux foutues avec un meilleur respect des couleurs d'origine avec une petit côté texte, t'as un petit côté bonus de texte derrière pour te remettre dans le contexte, ce qui apparemment n'est pas le cas des éditions Glénat. Peut-être qu'ils se rattraperont.
J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi ils avaient tout recolorisé.
Pour essayer de toucher le tout public et les enfants, je pense. C'est vrai que les vieilles couleurs, tu montes ça à un môme,
ça m'a pas, enfin, je sais pas.
Ouais, bon, moi ça m'a pas choqué non plus, mais je connaissais peut-être que ça aussi, donc. Trésor de Picsou, c'est lequel en particulier, toi, qui t'avait marqué? C'est aussi La jeunesse de Picsou.
Ouais, La jeunesse de Picsou. Parce que... L'épisode. Mon préféré, ça restait le dernier, en fait, quand. Il y a. Enfin, avant. Non, pas le dernier, celui où sa famille le largue à la fin de l'épisode.
Oui,
mais. On voit.
Ouais, beaucoup d'émotions dans du Picsou, oui. Ce à quoi on s'attend pas, en fait.
Et puis toujours les détails dans les cases, enfin en arrière-plan et tout, c'est vachement...
Ouais, c'est ça, c'est Don Rosa. Mais parce que dans les Trésors de Picsou, ils ont aussi fait des best-of de Karl Barks. La série continue régulièrement, hors-série, mais ils partent sur d'autres auteurs, justement.
Et puis même les derniers sur Don Rosa, ils reprenaient les mêmes histoires.
Bah oui, vu que c'est du kiosque, ils étaient difficiles à retrouver. Donc, mais je sais que, comme il y a eu plein de petits hors-séries de La jeunesse de Picsou, genre un 12 bis, un machin chose, etc., il est difficile d'avoir l'intégrale de la série à l'heure actuelle. Je crois qu'il doit me manquer, dans l'édition que j'ai, moi, il doit me manquer une ou deux histoires qui ont été rééditées après. Mais dans la réédition qu'ils ont faite, il y a d'autres histoires qui ne sont pas rééditées.
Oui,
donc ça devient un peu compliqué d'avoir la totale. Peut-être que dans l'intégrale, on va réussir à avoir tout ça.
Ouais, j'espère, oui.
Bah, d'ailleurs, Don Rosa avait, par rapport au boulot de Karl Barks, une approche qui rappelle un peu celle d'Urasawa par rapport à celle de Tezuka. À reprendre des thématiques, genre par exemple, il y avait une aventure de Karl Barks qui se passait à l'époque des œufs carrés, où il était dans les Andes où il trouvait des œufs carrés. Don Rosa refait une histoire où il retournait au pays des œufs carrés, mais où il réactualisait avec son style, avec sa dynamique, avec des détails à lui, même si, bon, graphiquement, on était quand même beaucoup plus proche que l'écart qu'on peut avoir entre un Pluto et un Tezuka. Hein.
Mais même graphiquement, Don Rosa, je trouve que c'est vraiment. Très beau, quoi. Enfin, le style.
Ouais, et puis on s'attend pas à avoir, je dirais, cette richesse dans une BD Disney, quoi.
Oui, et puis c'est pas pour enfants, enfin, c'est...
C'est du tout public.
Voilà.
On poursuit avec ta dernière découverte BD. Et alors là, on arrive encore sur du comics, hein, du comic. Sinon, je vais me faire taper par Fabrice Sapolsky si je mets X à la fin. Du comic, avec... Les Tortues Ninja.
Ouais.
Donc tu as découvert.
Non, mais j'ai pas cité Soda dans le questionnaire.
Ah si, j'ai oublié Soda, je suis un malade.
C'est quand je pointe du doigt en fait, ça veut dire que j'ai un truc.
Donc, on reviendra sur les Tortues Ninja après. Soda, une série dont il faut posséder l'intégrale, que je posséderais bien, mais c'est mon frère qui les a. Soda. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte ?
L'histoire d'un flic new-yorkais à trois doigts qui cache à sa mère qu'il est flic justement et qui se fait passer pour un pasteur.
Et c'est du polar d'action new-yorkais, un petit peu noir, ça dépend des histoires. Ça dépend... Les premiers tomes sont très noirs et ça s'est un peu éclairci par la suite. Oui, très
fun. Justement, je les ai relus cette année et c'était vraiment, c'est vraiment excellent.
Ton tome préféré
difficile.
Ouais.
Left to Hammer et celui dont j'ai oublié le nom où il retourne en gros dans le patelin de son père.
Ah ouais, c'est dans les récents, tiens. Ouais. C'est rigolo.
Non, les premiers, oui, j'aime beaucoup, mais le dessin me rebute un peu.
Ouais, le dessin de Vernon, bah, moi, mes préférés, c'est les traces à temps.
Ouais, c'est vrai qu'il est bien.
Il est vraiment noir, là, pour le coup. Puis tu plonges dans les origines du personnage,
ouais,
déjà. Les traces à temps étaient très, très bien. T'as entendu parler de la suite ?
Oui.
Tu l'attends ?
Oui. Enfin, je suis un peu déçu que ce soit pas le même dessinateur, par contre.
Oui, bah, il est sur un autre très grand succès actuellement, le dessinateur. Donc, et puis apparemment, il y a eu un désaccord entre scénariste et dessinateur. Donc...
Et puis, je suis un peu sceptique aussi, en fait, sur le fait de s'intéresser au 11 septembre.
Ah, t'as des infos ? Ils vont parler du 11 septembre ?
Bah, il me semblait, enfin, Gazotti, c'est bien le dessinateur, ouais. Il me semblait qu'il disait que l'orientation, justement, du scénario sur un rapport avec le 11 septembre l'avait pas spécialement emballé.
Bah, d'un autre côté, il fallait qu'ils se renouvellent un peu parce que le coup de l'amnésie où ils étaient eux-mêmes conscients à force, tellement ils faisaient des clins d'œil pour dire, vous avez vu, l'amnésie, c'est vraiment le scénario qu'on fait quand on n'a plus d'idées. Et eux, ils nous font un truc sur l'amnésie. On se dit, il va falloir qu'ils trouvent un moyen de se renouveler, quoi.
Ouais. Mais je sais pas, ça paraissait plus d'actualité à l'époque du 11 septembre.
Ouais, bon, c'est vrai qu'après 10 ans après, enfin même plus de 10 ans après, ouais, 11 ans après, je pense que ça peut on peut commencer à en parler avec du recul. Ça peut être intéressant. Très très bonne série Soda aussi. J'ai hâte de voir. C'est qui le nouveau dessinateur ? Tu as noté ou pas ?
Enfin, le trait avait l'air assez ressemblant à celui de Gazotti, mais.
Bah, Gazotti avait repris un peu le trait de Varnant aussi quand il avait fait le premier tome. Enfin, faut dire aussi il avait repris en cours d'album, Gazotti.
Là, je savais pas.
Il avait repris Varnant en cours d'album, donc forcément.
Sur lequel
je sais plus, je crois que c'est celui d'avant Les Traces à Temps, si je me souviens bien. J'ai un doute. Non, Les Traces à Temps, c'est Varnant. Je sais plus.
Ah oui, c'est le deuxième, donc.
Ouais, c'est celui d'après, je crois, sur le troisième tome, un truc comme ça. Je me souviens plus très bien. Bon, c'est bon, on peut parler de Tortue Ninja, non ? On aurait Isaac qui nous aurait chanté le générique. Oui, il l'aurait fait. Est-ce que tu penses qu'il l'aurait fait ?
Ouais, je crois qu'il aurait fait, mais mal.
Ah là, Isaac. Oui, c'est notre nouvel acolyte qui, dès qu'il a une occasion de chanter, chante. C'est magnifique. Les Tortues Ninja. Mais alors, de quoi tu parles ? Parce que les Tortues Ninja, ça veut dire beaucoup de choses.
Oui, mais en fait, je suis tombé totalement dessus par hasard, dans une librairie. C'est par le créateur original, Kevin Eastman, je crois.
Ouais.
Et ça s'appelle Les Tortues Ninja tout court, donc c'est pas Teenage, je sais pas.
Ouais.
Et donc le premier tome, c'est un nouveau départ, et ensuite il y a le second tome qui enchaîne un peu.
D'accord, c'est un redémarrage de la série.
Une sorte de reboot, on va dire.
D'accord. Donc on retrouve toujours un peu les
thèmes. En fait, moi je connaissais juste le dessin animé quand j'étais gosse, donc.
Oui. Qui n'a rien à voir avec la BD d'origine, même à la base. Parce que la BD d'origine était saignante, violente. Ouais, à la base, Tortue Ninja, c'était Kevin Eastman et Laird, je crois, le nom de l'auteur. Et à la base, c'était la BD underground violente. Quoi.
Ouais.
Ils ont revendu les droits dans tous les sens pour se faire de l'argent, hein, normal. Ils avaient l'occasion pour faire un dessin animé qui a cartonné. Go Ninja, Go Ninja Go.
Le film aussi.
Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, les films, faudrait que je les revoie. Je me souviens pas s'ils étaient vraiment bien ou si c'est mon souvenir qui... Ok, d'accord.
Je pense qu'une sorte de souvenir ému revient dans ma mémoire et je te dirais qu'a priori, reste sur ton souvenir. C'est peut-être pas la peine de regarder ça, en fait.
Quand tu verras Vanilla Ice en baggy fluorescent chanter Go Ninja, Go Ninja Go, peut-être que tu feras « Ah ouais, quand même
!» En tout cas, de mémoire, les personnages étaient bien faits, enfin les costumes.
Oui.
Mais bon, c'est apparemment...
Ouais, c'était pas trop mal fait, effectivement. Ouais, c'était... C'est vrai que là, il y a un projet de nouveau film, nouveau film d'animation, justement plus dans le ton un peu moderne, justement. Enfin, ils prennent moins les enfants pour des abrutis maintenant aussi quand ils font des dessins animés, donc plus mature dans le ton. Apparemment, Kevin Eastman, lui, vend le projet du dessin animé à fond, comme quoi c'est génial.
En même temps,
je crois qu'il a cédé quasiment tous les droits. Hein. Ouais. Je crois qu'il touche quasiment rien dessus. Je suis pas sûr, mais à moins qu'il ait pour le coup été pris en consultant, mais il me semble qu'il avait cédé quasiment tous les droits sur le truc et que ça marche pas, il s'en fout. Quoi.
Ouais.
Il est peut-être consultant justement sur le remake derrière.
En tout cas, le nouveau comics, là, ça a l'air d'être un mélange entre la version adulte et la version dessin animé.
Ouais, un bon...
Un truc grand public, mais pas non plus...
Ouais, pas pour les bébés, quoi. Voilà. Est-ce que c'est la bien tentante? T'as retenu le nom du dessinateur ou...
Non. Je sais que c'est chez Soleil Comics.
Soleil Comics, ok.
Il y a une histoire, même ça, je sais pas si c'est dans l'original, de réincarnation. Non, d'accord.
Non, c'est pas dans l'original, l'histoire de réincarnation. Bah, la base étant une ninja, l'histoire de base, je pense que c'était un prétexte pour faire des tortues ninja. Hein. Il avait trouvé un scénario prétexte. Ce sont des petites tortues, il y a un mutagène qui leur tombe dessus, qui les fait se transformer en super tortues ninja, et elles ont un rat qui leur sert de maître, et ils doivent lutter contre des méchants ninjas, et le prétexte c'était montrer des personnages qui graphiquement les éclataient, se latter la gueule contre des ninjas. Hein. Ça allait pas plus loin que ça, je pense, au départ, au niveau du scénario.
Et donc Shredder, il était bien dans le comics original.
Ouais, il était dans le... C'est Kang qui était pas dans le comics original.
Le cerveau, là.
Ouais, le cerveau rose, là. Qui a été rajouté dans le dessin animé.
Bah lui, on le retrouve dans le nouveau comics.
Dans le nouveau comics. Et il y avait Usagi Yojimbo qui avait fait un passage dans le dessin animé aussi, et dans le comics, d'origine.
C'est un lapin, non?
Ouais, je te montrerai, c'est juste derrière toi, il y en a 23 tomes. Très très bonne série. Quelque chose à rajouter?
Non.
Nous allons pouvoir poser la dernière petite question d'Internet. C'est Cobal qui nous demande... Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi les personnages d'Urasawa ont tous des troubles de l'identité. La question super facile.
Alors, donc...
Donc, on commande les pizzas, c'est ça? Parce que ça va être long, je pense. Hein.
Bah, si on cherche un élément biographique, comme j'ai dit dans le livre, quand il était petit, il s'amusait tout seul avec un miroir. Il se regardait dans le miroir et il s'imaginait que le reflet donc, qu'il voyait, c'était un agent secret du nom de Smith. Donc on peut voir ce trouble sur l'identité là-dessus. Enfin, en plus, il y a une scène dans Tokyo Century Boys où il y a un gamin à un moment qui se demande qui il est. Mais sinon, je vois pas trop d'explications à part que c'est... Enfin, ça rejoint son rapport à l'enfance, comme quoi quand on devient adulte, est-ce qu'on est fidèle à l'enfant qu'on était? Donc la question de l'identité qui change, des doubles aussi, ça a l'air de pas mal le préoccuper.
Et puis c'est un moteur narratif qui est
quand même costaud. Oui, voilà, après ça ouvre beaucoup de pistes. Quoi. C'est comme l'amnésie et la mémoire.
Le coup du miroir, tu retrouves ça dans Fringe aussi. Hein. Je sais pas si tu connais la série.
Le deux noms seulement.
Tu retrouves ce genre d'idée-là. Enfin... Ok, eh bien, on aurait encore des tonnes de choses à demander, mais il y a la piscine qui nous attend, faut pas abuser. Hein. Donc on va poser nos questions à la con.
Non, pour faire sérieux, en fait, il y a un train que doit reprendre Alexis pour remonter sur Paris. Et donc, du coup, on est un petit peu pressé par le temps. Donc, on va devoir un petit peu accélérer pour qu'ils puissent rentrer tranquillement sur Paris. Faut pas dire ça, attention, ils vont tous vouloir venir après.
Oui, mais imagine qu'il y a un auteur super bien qui nous écoute et qui fasse « Oh là là, il faut que je vienne !» Non, il faut qu'on vende notre postcard si tu as bien mangé.
Oui.
Voilà. Donc, les questions à la con, c'est facile. On va te donner deux mots. Tu en choisis un. T'es pas obligé d'aller dans le détail. Des fois, c'est débile. Des fois, ça ne veut rien dire. Tu peux préciser tes intentions si tu penses que t'as quelque chose d'intéressant à dire dessus. Et t'as le droit aussi à un joker et à dire « Ouh là là, je veux pas répondre, c'est trop compliqué. »
Ok.
Hergé ou Franquin ?
Franquin.
Et là, je ne peux pas lire, en fait. Et à moteur ou à plume ?
À plume.
Soleil ou l'association ?
Là, je vois pas. Soleil, on va dire.
Je vois toujours plus. Pardon. Slip ou caleçon ?
Caleçon. Enfin, boxer.
Jonah Jameson ou Jenna Jameson ?
Jonah.
Blonde ou brune ?
Brune.
Batman ou Superman ?
Batman. Mais plutôt Spider-Man, quoi.
Xbox ou Wii ?
Xbox.
Noir et blanc pas cher ou couleur de luxe ?
Couleur de luxe.
Thé ou café ?
Ni l'un ni l'autre.
Trondheim ou Larsenet ?
Trondheim.
Protoss ou Zerg ?
Zerg.
Numérique ou traditionnel ?
Traditionnel.
Bière ou pastis ?
Pastis.
One shot ou saga ?
Saga.
Ça va être plusieurs têtes. Blur ou Oasis ?
Pleur ?
Blur.
Blur.
Oasis alors.
Oh, il connaît pas Blur. Ah. Donald ou Howard the Duck?
Donald.
Atari ou Amiga? Celle-là, ouais, non, là, désolé, non. C'est old school. Hein.
On va dire Atari.
Parce qu'ils existent encore, Atari, au moins. Toriyama ou Otomo?
Toriyama.
Voilà, on en a fini.
Ça va, j'ai saisi les trois quarts des références.
Ouais, ça va. Ouais, non, mais il y a des trucs un peu anciens, tu vois, ouais. qui nous parlent, mais parce qu'on est vieux. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci de t'être déplacé pour nous voir, ouais. Parce qu'on ne s'y attendait pas du tout.
C'est la piscine qui m'a attiré.
Donc, on va vite finir pour que tu puisses aller dans la piscine dans notre train. Je rappelle qu'on peut te trouver sur ton site qui est labassesecrete.fr.
C'est ça.
Que ton livre Naoki Urasawa, L'ère du temps, est sorti chez Les Moutons Électriques dans la Bibliothèque des Miroirs et qu'il coûte 23 euros. TVA 7% incluse, peut-être que son prix va baisser bientôt. Mmh. Je sais pas comment ils vont faire dans ce cas-là.
Je sais pas du tout.
Voilà. Urasawa, puisqu'on en parle, va y avoir le tome 4 de Billy Bat qui sort en septembre.
Le 19.
Le 19 septembre. Qu'en août, nous avons
le spin-off
de 20th Century Boy. D'autres actualités autour d'Urasawa?
Bah, il y a Happy qui continue de paraître et il y a Master Keaton qui va commencer à être publié en début 2013.
Un sujet dont j'aurais aimé parler, mais on va pas avoir le temps, ça aurait été tous les films autour d'Urasawa, mais ça on va en parler dans la piscine. Désolé pour tous les gens. Pas que les animés, les films. La trilogie, ouais, non, 20th Century Boy, genre, tu vois, si je dis trilogie 20th Century Boy.
Ah ouais. Bon, bah, on va s'arrêter là. Allez, merci beaucoup, au revoir. Hein.
Ouais, c'est ça, merci de nous avoir écoutés. Merci,
merci encore, à vous.
Alexis, et on se retrouve, nous, dans une prochaine émission, très bientôt. Ciao.
Ciao. Ciao.
Je suis Alexis Orsini et vous écoutez La Voix des Bulles.